Alors bonjour tout le monde. Alors, il est formidable de vous voir ici en si grand nombre. Je crois que je partage le sentiment que vous avez d'être ici, parce que c'est une question extrêmement importante. Et je suis heureuse que nous ayons un tel groupe d'experts que nous présenterons, prenons la parole ce matin, qui ont bien préparé leur présentation pour exprimer leur point de vue, et ensuite nous avons besoin de votre point de vue à vous pour le dialogue. Je crois que nous allons passer directement à la passe de la parole, et les gens nous reconnaîtront la parole au microphone, et je vous demanderai de nous dire qui vous êtes, et lorsque vous adresserez votre question et votre commentaire. J'ai été à plusieurs sessions, pas une seule session que je suis allé n'a pas parlé du stigmate et de la discrimination. La violence basée sur le genre, sur le sexe, et particulièrement la discrimination chez les femmes, les jeunes femmes, c'est sous-estimé tout le temps. Et un des chapeaux que je suis heureuse de porter ici, c'est celui des femmes qui vivent avec le sida. J'ai parlé avec beaucoup de mes collègues, et leur histoire commence toujours avec la question du stigmate. Et à ce moment-là, ça me ramène, moi. Ça me blesse de savoir que les gens sont traités de la façon qu'ils sont traités. Mais il y a tellement de tâches. Il y a même les innuendos, les sous-entendus et tout le reste qui sont mis. Alors nous avons vraiment besoin de traiter ce sujet-là et de trouver des stratégies qui fonctionnent bien. Parce que nous ne comprenons pas, il est crucial, la prévention est cruciale, mais l'accès au traitement est crucial aussi. Mais il est crucial que nous vivions ensemble dans les collectivités et dans des environnements. Et c'est un sujet qui est vraiment au cœur de l'approche des droits humains. Sans plus de préambule, parce que nous avons de bons panélistes ici, et je veux entendre votre point de vue, je voudrais présenter notre première personne qui prendra la parole ici. Mais c'est un plaisir vraiment de vous présenter Dr. Mandeep Dhaliwal. Vous savez qu'il travaille avec l'Alliance, et puis il est président de Para 55, le groupe d'action sur HIV-AIDS, et travaille sur les questions du sida et des droits humains depuis plus de 20 ans. Et je crois que ce qu'il va faire, c'est de nous donner un aperçu référé au travail qui arrive du processus d'accès universel. Il va souligner la volonté qui est encore nécessaire pour adresser le stigmate et la discrimination. Et je souligne ici la volonté politique. On n'entend pas les présentateurs parler, évidemment, de stigmate comme celui-ci. Parce que ça blesse. Et ça blesse les répercussions sur les répercussions dans leur âme. Alors écoutons bien Dr. Dhaliwal. Et ensuite, j'ai bien hâte que vous nous aidiez à créer une stratégie qui nous aidera tous et toutes. Merci. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Je pensais que les gens allaient être fatigués de la conférence, mais tous les gens semblent extrêmement intéressés. Et j'espère que nous aurons une bonne session. J'aimerais commencer pour reconnaître les arrangements, toute une gamme de gens qui ont contribué à cette présentation avec leur intellect, leur intégrité, leur engagement. Et j'espère que la présentation leur rendra justice. Pour vous parler de la méthode un petit peu, de mettre sur pied cette présentation, j'ai eu le privilège d'être impliqué avec le comité central sous la direction du gouvernement des Royaumes-Unis et des droits humains, pour identifier les barrières, les solutions que nous avons besoin spécialement pour l'accès universel. Il y a eu une série de rapports, il y a eu 51 pays qui ont été consultés, et j'ai révisé 4 rapports régionaux dans 9 régions différentes, des présentations basées sur la société civile et l'Alliance VIH-SIDA, quelles sont les barrières, les préoccupations qui empêchent l'accès universel. Et j'ai aussi étudié la question des délibérations et les résultats de ces rencontres-là. Comme vous savez tous, le comité de direction a généré un rapport basé sur ces consultations qui ont été soumises au conseil général et puis qui ont amené une déclaration qui ont été données sur la rencontre générale sur AIDS, sur le sida. Nous avons aussi parlé et quelques-unes des discussions dont j'en ai parlé les derniers jours dans cette conférence, c'est inclus ici. Alors, le contexte, c'est particulièrement emballant comme période. Nous avons un engagement historique à l'accès et par toute une gamme de leaders politiques. Et avec cet engagement, revient un engagement et de transformer ces engagements à des programmes qui vraiment traitent la stigmatisation au niveau mondial. De réussir un accès à tous les pays voudra dire de traiter du stigmate et de la discrimination. Quelles sont les questions dont on a entendu parler jusqu'ici? La plupart des consultations que nous avons eues, la plupart des pays décrivent le stigmate et la discrimination, incluant la peur du stigmate et la discrimination et l'ostracisation naturellement. Ce sont des barrières pour aller chercher le traitement ou la prévention et le traitement du sida. Les efforts nationaux ne sont pas nécessaires pour aider les gens qui sont les plus en risque. Nous savons que la couverture qui existe actuellement pour les populations clés est moins que 20%. Et la couverture des traitements est moins que rien dans ces populations-là. Et j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de populations qui ont fait des commentaires qui référaient il y a à 25 ans, l'épidémie de 25 ans. Et je suis embarrassé, je suis humilié qu'à 25%, depuis 25 ans, que les gens ont de la difficulté à dire la vérité et que ceux qui sont le plus à risque sont les travailleurs du sexe, les gens qui utilisent les drogues, les transgenres transgénériques. Et puis on ne fait pas aucun progrès pour régler leurs problèmes. L'égalité dans les sexes aussi est citée comme une barrière majeure qui doit être traitée. Selon les constructions, peu de pays ont le même accès entre les hommes et les femmes. En réalité, nous savons que la situation est très différente. Nous savons que les facteurs économiques sociaux empêchent l'accès des femmes aux services. La disponibilité, l'accessibilité aux services est toujours soulevée comme étant un sujet. Nous savons que les services n'existent pas pour les jeunes gens, qui sont les gens qui sont plus à risque. Et les autres de population, les utilisateurs de drogue, les gens qui ont des relations sexuelles, les hommes qui ont des relations sexuelles entre eux-mêmes. Nous savons que le manque d'accès au traitement gratuit est un gros barrière à aller chercher les... Nous savons que les gens qui ont accès à un traitement de AVRT, ont de la difficulté. C'est une chose qui doit être traitée si nous voulons avoir l'accès général. La décriminalisation du sexe, les gens du même sexe et les échanges de seringues et d'aiguilles. Nous savons ici que la conférence de presse que l'ancien président Clinton a bien dit qu'il s'excusait bien de ne pas avoir reconnu le problème qui existait. Et c'est quelque chose que nous voulons faire si nous voulons avoir un accès universel. Un autre exemple de loi qui prévient l'accès aux services et le traitement. C'est la restriction des... Moi, je demeure au Royaume-Uni. Je dois dire que les gens qui... On essaie toujours d'exclure des gens du traitement contre du sida. C'est quelque chose qui est arrivé un petit peu plus tard, mais je crois que ça a été discuté encore plus à cette conférence. Nous savons que nous avons besoin d'augmenter la fréquence du dépistage. On ne doit pas le faire avec des répercussions sur les droits humains. Il y a aussi un besoin que vous êtes considéré que pas tous les gens sont égaux, ont tous la puissance de sortir spécialement pour la relation entre médecin et un patient ou patiente. Suzy McLean, ma collègue, a dit, il y a toujours cette courbe glissante, cette descente glissante, et on a vu ça au dernier 25 ans. Alors, on doit faire, évidemment, être très vigilant pour, si on utilise des modèles de opt-out, que ces gens-là ne perdent pas le dépistage. Alors, nous n'avons encore besoin de plus d'évidence que là, votre mise en place, pas simplement l'évidence selon la perspective des fournisseurs. On a besoin du point de vue des gens qui l'utilisent aussi. Alors, nous avons toujours eu la perspective des gens qui fournissent ce service. Alors, je ne crois pas que ce soit suffisant pour cette réduction du stigma et la discrimination qui se produit. C'est pas simplement les fournisseurs de services dont on doit avoir le point de vue. Alors, quels sont les engagements des 100 parmi tous nos membres, c'est l'effort d'éliminer tous les stigmas, les discriminations, toutes les formes. C'est un défi, évidemment, selon les différents niveaux de stigmates et de discrimination. Nous engageons aussi l'accès et la protection, la confidentialité et l'appui dans cet environnement légal, élimination des différences entre les sexes et la violence sur le sexe féminin. Alors, quel est notre engagement? Nous devons le faire au niveau mondial pour continuer le travail au niveau des pays. C'est là où l'épidémie se trouve, au niveau des pays. Nous devons améliorer les interventions spécifiques pour enlever pour diminuer le stigma de la discrimination et l'inégalité dans les sexes, pour construire une soutenabilité politique. Généralement, nous devons faire la promotion et la protection et de combler les droits humains à ces gens qui sont les plus vulnérables et aussi quelque chose que nous avons entendu parler la première journée et que je n'ai pas entendu parler, c'est une question très sérieuse, c'est avant d'augmenter le traitement et le soin, nous devons nous assurer que nous avons assez de condoms afin que les gens puissent faire l'amour plus qu'une fois ou deux fois par année ou trois fois par année. Nous devons faire attention nous-mêmes, le comité des donateurs et la société civile, ont traité le changement de figure du stigmate et de la discrimination. On doit parler de la décriminalisation de la transmission du VIH. Nous savons que ça va à l'encontre des objectifs de la santé publique. Nous devons faire attention que nos investissements d'argent vont vraiment dans des interventions qui sont basées sur des preuves. Alors, on souligne toujours le point que le gouvernement américain est celui qui est le plus fautif ici, qui parle simplement d'abstinence et qui ne finance pas l'échange des aiguilles. Alors ici, M. Clinton a donné 5 millions de dollars. Allez sur le site web. Ils font du rescapage des victimes du travail du sexe. Alors, nous savons où nous pouvons le faire. Alors, j'encourage Belinda Gates d'être encore plus vigilante à savoir sur quoi ils dépensent leur argent. Les solutions concrètes, nous savons ce qu'elles sont. C'est très intéressant de prendre une minute ici, parce que j'ai entendu des commentaires qui affectent beaucoup comment les droits humains, la protection légale et les réformes des politiques dans le monde de l'Ouest. J'aimerais vous dire que dans ces consultations, 51 pays n'ont pas été tous des pays de l'Ouest. Il y a eu des pays en voie de développement, l'Asie est partout. C'est ce qu'ils nous disent, quelles sont les solutions concrètes qu'ils ont besoin pour aller à l'accès universel. Les gens qui veulent réécrire les paramètres des droits humains, qui ont dit que si on veut avoir l'accès humain, on devrait mettre de côté la confidentialité et tout le reste, ce sont des gens qui veulent aller par des raccourcis. Je sais que des raccourcis comme ça ne doivent pas être permis si on veut l'avancement pour les traitements et la prévention et long terme, et que ce soit soutenable. Alors, ce sont les solutions concrètes qui ont été proposées par les 51 pays et les 9 consultations régionales. Ils veulent une réformation et enlever les politiques qui perpétuent le stigmate et qui empêchent évidemment la prévention et le soin contre le dépistage, la discrimination, l'inégalité des sexes. La mise en place de législation qui doit promouvoir les droits des gens avec l'éducation et les gens qui créent les politiques et qui créent les services. L'accès gratuit à l'antirétrovirus et la mobilisation des gens qui vivent avec le VIH. Il demande aussi d'avoir de vrais outils pour pouvoir mesurer les avances. Alors, j'aimerais vous laisser avec une question ici, parce que je suis une bonne militante, je vous mets toujours les gens au blanc. Si vous étiez la personne qui s'occupe d'un programme, vous devez investir dans 2 ou 3 interventions pour réduire le stigmate. Dans quoi le feriez-vous? Et maintenant, j'aimerais avoir des plans pour l'accès universel national à la fin de 2006, afin que tous les pays doivent mettre sur pied un plan universel d'accès à la fin de 2006. Savez-vous où les plans sont dans votre pays? Qui est impliqué à le faire? Il doit y avoir évidemment la transparence pour mettre ces plans sur pied. Ces plans doivent inclure des investissements spécifiques dans les interventions de réduction du stigmate. Nous avons entendu parler tout simplement des gens qui se débattent les babines sur ça. Mais on veut ici donner le pouvoir aux gens, pas simplement les femmes, mais dans les gens de ces gens qui sont marginalisés dans notre population, que nous avons des travailleurs du sexe, les hommes qui ont du sexe avec des hommes, les utilisateurs de drogue et les enfants. Sans ces investissements-là, ces engagements-là, l'accès universel ne sera pas réalisé et ne pourra pas être soutenable non plus. Merci. Merci beaucoup, Mandeep. Mes excuses. Je pense que j'ai fait une transformation de sexe lorsque je suis arrivé ici. C'est peut-être lorsque je suis sorti dans ces élévateurs avec ces foules-là. Je m'excuse. Un couple de points que j'aimerais renforcer ici, que vous avez si bien fait, sans nommer les groupes vulnérables. Et ensuite, j'ai parlé de l'écart dans les condoms. Je crois qu'il y a aussi le condom, on oublie de parler du condom féminin, celui qui est vraiment pratique, la protection que les femmes peuvent négocier. Nous devons être plus honnêtes pour ces choses-là. Pourquoi évitons-nous toujours de parler du condom féminin? Vous avez posé de bonnes questions aussi à l'auditoire, qui sont très bonnes. Et franchement, j'arrive d'une conférence de presse de l'ICW, sur le dépistage. Ce sont des femmes qui vivent dans des pays en voie de développement et elles sont vraiment préoccupées sur le dépistage et l'opt-out du dépistage. J'ai été frappé par celles qui vivent avec ce stigma-là, celles qui vivent avec la discrimination, sont vraiment inquiètes de ce que nous voyons ici. Et puis le dépistage ne veut pas dire l'accès au traitement, vous savez. Je ne dois pas évidemment faire une présentation ici, je suis simplement la présidente. L'autre personne que j'ai le plaisir de vous présenter, Dr. Noura Naiblade, au Centre pour la recherche de l'ICW. Elle a travaillé beaucoup sur les stigmas, avec plusieurs études, examiner quels sont les facteurs qui perpétuent qui continue ce stigmate et comment ces facteurs-là ont des répercussions sur l'accès au dépistage, l'accès aux soins, à développer des indicateurs pour mesurer le stigmate qui existe et de développer les outils contre les stigmates et faire une évaluation de la réduction en Tanzanie et au Vietnam. Elle a un doctorat d'université de Pennsylvanie. Laura, c'est un plaisir de vous avoir ici parmi nous. Merci. Avant que je commence, j'aimerais commencer avec une citation de Canon Gradian, Henkisha. du réseau des leaders religieux en Afrique qui vit avec des gens qui sont affectés. Tous les gens sont mobilisés maintenant sur l'accès universel. C'est bien ça. Mais personne ne parle du fait que pour arriver à cet objectif, nous devons enlever ce stigma, la négation qui existe et puis le stigmate qui existe. Là, je suis ici à la suite de Mandeep, et de dire que nous n'avons plus d'excuses pour ne rien faire. Nous savons qu'il y a des interventions, nous avons des outils, et ces excuses sont simplement là pour rien, finalement. Qu'est-ce que nous croyons maintenant sur les stigmas pour ce qui a trait du VIH, comme Mandeep l'a déjà dit? C'est l'accès universel. Nous savons que c'est universel. Nous savons qu'il est partout. Nous savons aussi qu'il est prévalent. Et je vais vous montrer ce que c'est. Nous savons que la perception est différente entre les hommes et les femmes. L'expérience de chacun a l'expérience de la discrimination. Mais le font de façon différente. Nous savons aussi qu'on peut changer beaucoup. Et les autres panélistes ont parlé, évidemment, des interventions spécifiques pour le faire. Et nous savons aussi maintenant qu'on peut le mesurer. Par conséquent, on peut mesurer la réduction du cinéma et ce que nous faisons est une excuse ou une barrière pour ne pas financer les programmes pour réduire les stigmates. Parce que nous ne pouvons pas le mesurer. Maintenant, nous n'avons plus cette excuse. Il y a beaucoup de gens là-bas qui parlent du stigmate et je vais illustrer ces points de l'ICRW et le programme de 6 ans. C'est un travail qui a été focalisé dans 4 pays au tout début, les États-Unis, la Zambie et le Vietnam. Du début de la première recherche, cette recherche est revenue dans les collectivités, a été adaptée. Les outils pour la réduction du stigmate ont été adoptés. Nous avons aussi à travailler avec la question de mesurer les stigmates sur le terrain, la validité et la fiabilité. Et nos autres collègues du panel vont en parler aussi. Nous avons un processus pour le mesurer. Nous sommes aux endroits, nous sommes rendus au point où nous pouvons passer à l'action. Cela vient de notre étude en Tanzanie. L'étude de gens, c'est une étude basée sur les gens qui vivent avec le sida ou le VIH. Nous voyons ici que c'est prévalent pour tout le monde, mais c'est plus expérimenté par les hommes, par les femmes que par les hommes. Et c'est juste pour faire le point ici. J'aimerais tout simplement dire que notre travail de quantité qui est fait dans 7 pays, avec un nombre très grand d'entrevues, nous savons que même s'il y a des variations, nous savons qu'il y a le langage change. Alors, ce sont des basés sur des nuances, degrés plutôt que substances. Nous avons qu'est-ce qui cause le stigmate? Qu'est-ce qui fait? Quelles sont les conséquences du stigma? Le stigma est court, c'est parmi tous les. Ça a été une excuse pour l'inaction jusqu'à. C'est trop spécifique sur la culture. Ça coûterait trop cher pour parler de la stigmatisation. C'est commun, c'est là partout, c'est là au centre de tout. Encore une fois, j'aimerais parler un petit peu des différences que nous avons mesurées entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes expérimentent le stigmate de différents niveaux. Les femmes le font sur des formes encore plus graves et en plus grand pourcentage. Nous devons tous traiter de la violence si nous voulons réduire ce stigmate-là. Nous devons voir ces questions-là ensemble et comme on peut le voir ici, les femmes sont plus des victimes de ça au niveau de la famille, au niveau de tout ça, et elles courent le risque de perdre leur propriété et tout le reste. C'est quelque chose que nous devons régler. J'aimerais aussi dire les causes qui sont sous-jacentes dans cette discrimination, elles sont encore hautes. Dans l'étude qui a été faite en Tanzanie, 47% des gens qui ont répondu sur des échantillons randomisés, on dit, nous avons mesuré 12 causes différentes qui amènent directement à l'isolation physique. C'est bien expérimenté. Nous savons aussi que les attitudes de stigmatisation demeurent très fortes. 50% des gens qui ont répondu parlent évidemment de la honte. J'aurais honte si quelqu'un de ma famille avait le VIH ou le sida. 66% sont d'accord avec les jugements puis blâment les adultes. VIH et sida est une punition de Dieu sur des mauvaises choses que nous avons faites. Alors, cette honte-là reste là, est très forte, et on doit en parler. Maintenant, je dois parler que nous pouvons passer à l'action. Les outils contre cette stigmatisation peuvent exister. Je n'ai pas beaucoup de temps pour les développer, mais il y a une boîte à outils qui existe ici pour le faire, un toolkit qui a été utilisé dans beaucoup de contextes. Ça existe, il est disponible et les gens l'utilisent avec beaucoup de succès. Alors, nous avons des outils. Il y a aussi d'autres outils qui existent pour les travailleurs de la santé, pour les qui ont été mis sur pied par différents groupes de gens. Il y a du matériel qui existe. Nous avons des outils qui peuvent nous aider à répondre. Et cette boîte à outils est disponible sur notre site pour l'amélioration. La deuxième édition est en train d'être faite actuellement. Les initiatives dans l'Afrique, d'autres outils qui ont été faits. Et les gens qui ont utilisé ces outils-là disent qu'on peut avoir intervention avec des groupes multiples. J'aimerais aussi dire que samedi dernier, nous avons une consultation d'une journée sur la discrimination et nous avons entendu parler de 3 programmes d'intervention différents qui sont en continu actuellement au Vietnam, une en Tanzanie, la promotion de la confiance et une du Mexique et un autre Hernandez qui le fait aussi. Et je voulais partager avec vous certains des messages que je voudrais que vous apportiez avec vous dans vos foyers. La première, c'est qu'on a besoin de commencer au foyer. Juste parce que vous croyez que vous avez travaillé sur le sida depuis des années, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit d'autre dans votre organisation, dans votre institution. Ce message doit commencer à la maison. Reconnaître que les stigmates et la discrimination sont souvent, on ne réalise pas. Lorsqu'on placote les uns avec les autres, nous ne rendons pas compte actuellement que nous continuons cette stigmatisation. Comme Andy l'a dit, les hommes qui ont du sexe avec les femmes, les travailleuses du sexe, différentes femmes qui sont des victimes de la violence, nous avons besoin de les écouter et d'apprendre si nous voulons avoir des interventions de réduction des stigmates. L'autre, c'est d'ouvrir cette barrière. Nous devons travailler avec les gens qui établissent des politiques. Nous devons travailler avec les leaders religieux et de collectivité. L'autre chose que nous devons faire, nous devons impliquer les groupes qui ont expérimenté, qui ont vécu le stigmate. Tous ces gens que nous avons mentionnés, les gens les narcomanes, qui font la drogue, nous devons améliorer la visibilité et augmenter la conscientisation des gens qui vivent dans le stigma de la discrimination. Nous devons adresser les gens qui se crucifient eux-mêmes. Et nous savons que le réseautage est extrêmement important dans les populations stigmatisées pour aller de l'avant. Chacun de ces groupes ont trouvé...
Les médias, la police, les travailleurs sociaux, il faut avoir une approche participatoire. Tout cet outil a été utilisé avec réussite. Il faut diversifier les activités et utiliser des images positives des gens qui vivent avec le VIH/SIDA. Un message clé qui provient de tous les groupes, il faut des activités durables dans le temps. Il faut incorporer la réduction des stigmates dans toutes les activités existantes. Par exemple, le programme en Tanzanie a incorporé des activités à domicile, des conseils et un certain nombre d'activités qui rendent tout cela plus durable dans le temps. Il faut aussi fournir du soutien continu pour les gens qui mettent en place ces activités. Je vais conclure. On m'a demandé de parler des carences restantes et les étapes futures. Nous devons des études qui examinent les relations entre ce qui se passe lorsque vraiment on réduit les stigmates et que l'on prend en charge les services de VIH pour avoir un accès universel. On entend également tout ce qu'il est suffisant de fournir des traitements antirétrovidaux et donc les stigmates vont disparaître. Je pense que tous ceux qui travaillent sur le terrain, ce n'est pas le cas. Mais ce qu'on entend, encore une fois, une excuse pour ne pas financer la réduction des stigmates. Le traitement n'est pas suffisant. Nous savons que ce n'est pas le cas. Il faut des études qui documentent cela de façon rigoureuse. Nous devons également examiner le nexus entre les sexes, les stigmates et la violence. On ne peut pas traiter ces problèmes séparément. Tout ça est lié. Il faut mieux comprendre comment les relations existent entre... Il faut examiner les couches de stigmates, les groupes qui vivent la stigmatisation. Cela, on le vit déjà, la stigmatisation, avant d'être infecté. Donc, la maladie n'est juste... c'est une aggravation de la stigmatisation générale. Il faut aussi de la recherche opérationnelle pour évaluer de façon rigoureuse les programmes de réduction des stigmates afin de montrer que les programmes fonctionnent. Ensuite, nous devons avoir un ensemble normalisé d'indicateurs de stigmatisation dans le monde entier. Je pense qu'il y a du travail qui a commencé à être fait. C'est possible, mais encore une fois, j'entends particulièrement des politiciens et des organisations donatrices. Si on ne peut pas mesurer, on peut rien financer. Donc, maintenant, on peut mesurer. Donc, l'excuse n'est plus valable. Il faut partager les bonnes pratiques et apprendre les uns des autres. Dans cette conférence, j'ai découvert de nombreux programmes pour la réduction des stigmates. On n'a pas vraiment de forum officiel pour partager la connaissance. Il faut adapter les outils qui fonctionnent et les pratiques afin d'élargir nos activités. Il faut augmenter encore le travail de promotion et de pression politique et au niveau international. Pour conclure, je veux simplement dire, la stigmatisation peut être réduite. Nous n'avons plus d'excuses. Nous comprenons suffisamment le problème pour agir. Nous avons des outils pratiques. Nous avons des mesures pour évaluer les programmes. Et chacun d'entre nous peut faire la différence. Merci de votre attention. Merci Laura pour cette contribution très pratique au problème de la prise en charge de la stigmatisation. Maintenant nous avons une trousse à outils, on peut mesurer l'impact de la stigmatisation et mesurer l'efficacité des programmes. Je veux lier cette question à l'appel de Mandy Affey. Il faut qu'il y ait un accès national et universel pour la fin de cette année, parce qu'il faut inclure les moyens de mesurer l'efficacité de la trousse à outils. Donc cela nous donne un petit peu une base stratégique pour vraiment commencer à traiter ce problème. Il faut apprendre les uns des autres. Et je suis heureuse de voir que dans cette session, au moins nous sommes très ouverts par rapport aux groupes vulnérables. Et nous les traitons comme ils doivent être traités. Maintenant, je vais appeler Anne Valuna. Il est coordinateur du réseau mexicain des gens qui vivent avec le VIH-Sida. Il vit avec le virus depuis 1991. Il est un activiste d'accès au traitement. Il est aussi consultant sur la stigmatisation et la discrimination. Factura Futures. Le micro est à toi. Bonjour. Je remercie les organisateurs pour m'offrir la possibilité de parler à cette conférence. Je vais commencer mon exposé en partageant un petit peu avec vous les conséquences un petit peu de la stigmatisation, comme Laura l'a dit, l'auto-stigmatisation. Même si le fait, malgré que j'ai accepté le virus, mais je ne veux rien à côté de moi. C'est un mensonge. Ne pas dire la vérité, un petit peu. Si personne ne me pose de questions, je ne vais pas leur raconter mon histoire. Si je dis que j'ai le VIH, on peut me renvoyer de mon emploi. Et de nombreuses possibilités de ma vie vont être détruites, disparaître. Lorsque j'ai appris, découvert que j'étais séropositif, je me suis retiré du monde parce que je n'avais plus d'amour propre. Je me suis verrouillé à la maison, je ne répondais plus au téléphone et je dormais toute la journée. Ce sont un petit peu des exemples de l'auto-stigmatisation affecte la vie des gens. Mais je veux traiter ce problème au cœur. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de la stigmatisation interne? L'auto-stigmatisation, cela veut dire la stigmatisation perçue ou les manifestations internes de la stigmatisation acceptée ou les perceptions sociales négatives transformées en choses comme la peur, l'anxiété ou même la douleur, la peine morale et physique. Une autre façon de comprendre cela, un petit peu, nous avons développé un peu un synoptique pour clarifier les idées. Nous avons compris que l'auto-stigmatisation, c'est la honte associée à la séropositivité et la peur d'être discriminé. Nous comprenons que ces phénomènes ont trois composantes. L'expérience du contexte, c'est-à-dire l'environnement, l'auto-perception, la perception de soi-même, comment les gens perçoivent le contexte, et l'action protectrice, comment les gens tentent de se défendre par rapport au contexte. Je vais traiter donc ces trois composantes. Alors, l'expérience du contexte, le vécu, c'est une concentration sur les situations physiques et environnementales. Il y a plusieurs éléments qui interagissent et qui amènent à un sens général de perte de contrôle. Certains de ces éléments clés sont la dénigration et les préjudices. La désinformation ou la mésinformation, les pressions économiques et sociales, et bien sûr la détérioration physique, par exemple les dystrophies musculaires et autres. Dans la société mexicaine, il est courant que c'est une perception que l'homosexualité, c'est vraiment un comportement rejeté, dont ça crée un environnement qui affecte la perception de soi-même. Ça stimule l'auto-stigmatisation. Alors, l'auto-perception, il y a des sentiments récurrents, profonds, de honte, de culpabilité, de peur, d'auto-culpabilité et d'anxiété, d'angoisse. Et je vais revenir sur l'homosexualité. Si l'ensemble de la société pense que l'homosexualité est quelque chose de vraiment critiquable, je vais avoir l'hypothèse que la société a raison. Donc je vais me sentir coupable et je vais me sentir sale. La deuxième composante, c'est l'action protectrice. Afin de lier cela avec l'accès, donc ça c'est vraiment la conséquence, l'action protectrice, cela inclut l'évitement et l'auto-exclusion. Donc on évite les plans à long terme, bien sûr, recherche d'emploi, acheter une maison, avoir évitement des activités en général, par exemple la recherche de services de santé, l'isolement et le retrait, l'évitement des activités sociales, les rencontres intimes, et c'est très important, le travail que nous faisons au Mexique, nous avons découvert que de nombreuses personnes expriment, lorsqu'ils découvrent leur séropositivité, ils décident souvent, ils rejettent la vie intime, l'intimité, l'amour disparaît, il n'y a plus de relation amoureuse, ils disent « je ne veux plus entendre parler d'amour ». Ma vie sentimentale est finie et a disparu. Pour nous, c'est un problème vraiment essentiel, un élément essentiel de cette action protectrice. Ils se protègent, et ils se protègent par rapport à leurs propres sentiments. Donc c'est le déni, ils se cachent ou déroutent un peu les autres par rapport à leur séropositivité, leur orientation sexuelle, particulièrement l'homosexualité, par exemple, au Mexique. Bien sûr. Alors, quel est l'impact sur l'impact de l'autostigmatisation dans le contexte de l'accès? Un exemple est, bien sûr, la peur d'être testé. Les gens ne veulent pas être testés parce qu'ils savent, ils connaissent les conséquences négatives de la stigmatisation et la discrimination. Par exemple, ils ne veulent pas être rejetés par leur famille ou leur partenaire. La peur d'être vu dans des établissements liés au VIH ou de recevoir des services liés au VIH. Ils ne veulent pas que les gens, que quelqu'un les voit. Les voies autour de l'hôpital ou dans une file d'attente pour recevoir des médicaments ou dans une file d'attente de clinique où les gens savent qu'il y a des services pour le VIH. Alors, la disparition de l'observance de traitement, des traitements, ils cachent leurs médicaments, ils ne veulent pas participer à des événements sociaux ou des activités sociales, ils ont la perte de possibilité de recevoir des traitements adéquats, même si ces traitements sont disponibles. Il y a de l'accès au traitement au Mexique, mais la stigmatisation existe vraiment, la stigmatisation, parce que les gens ne veulent pas aller dans les établissements de santé, encore une fois, parce qu'ils ont peur d'être associé au VIH. La peur, bien sûr, des effets secondaires, par exemple la lipodystrophie. Les gens, ils ne veulent pas souffrir des effets secondaires parce qu'ils savent, s'ils ont l'air fatigué, par exemple, les gens vont se dire « Ah, il est séropositif !» Et donc, ils refusent parfois de prendre des médicaments à cause de cela. La honte. Ils ont honte de parler avec des fournisseurs de services de santé, et particulièrement sur les questions sexuelles. Ils attendent souvent, jusqu'à ce que la maladie soit avancée vraiment avant de discuter de des questions. Et bien sûr, la peur de discuter des questions de reproduction avec les fournisseurs de services de santé. Hier, je discutais, mes collègues ont discuté de cette question. Comment il y a des gens qui dénient? Les gens refusent, certains prestataires de services de santé refusent le droit de se reproduire à des séropositifs. Donc, alors, les stratégies pour réduire l'autostigmatisation. Une des stratégies est d'améliorer la création de capacités, le capital social, le développement personnel. Alors, la création de capacités dans les zones liées au secteur, liées à la croissance personnelle et sociale, améliorer l'amour propre et le sens de valeur, améliorer le capital social individuel, le sens d'influence dans les sphères sociales et le sens d'intégrité sociale ou, par exemple, la confiance dans les institutions sociales. Nous pensons que c'est très important d'aider les gens à se sentir mieux intégrés pour créer, de participer à l'environnement social afin qu'ils se réintègrent dans la société. Deuxièmement, améliorer les services de soutien pour les gens avec le VIH, assurer la qualité des soins et des soins exhaustifs aussi, en plus du soutien, développer l'indépendance économique et maintenir la confidentialité dans les lieux de travail, les établissements de santé et les diverses sphères sociales. Nous travaillons plus spécifiquement dans les établissements de santé parce que nous, les peurs essentielles sont liées aux établissements de santé. Nous pensons vraiment insister sur cet aspect. Troisièmement, améliorer la visibilité des personnes vivant avec le VIH et comme membres productifs de la société, faut offrir des modèles de rôle plus positifs, créer des aptitudes de leadership et renforcer les groupes de soutien. Nous pensons que c'est très important pour créer plus un meilleur environnement de soutien. Par exemple, les médias continuent à délivrer une très mauvaise image des séropositives. Ce travail doit stopper. Il faut arrêter cela. Donc, il faut créer des modèles positifs pour encourager les gens à être visibles. Il faut bien sûr évaluer les pour et les contre. Il faut créer un environnement sécuritaire pour que les gens deviennent visibles, qu'ils le soient. Alors, quel est le trajet à suivre maintenant? Nous devons un petit peu renforcer la création de capacités pour les réseaux des séropositifs, mais pas uniquement les réseaux officiels, aussi les réseaux informels, les familles, les amis, les relations, les partenaires. La stigmatisation interne et renforcer les groupes de soutien. La formation et la sensibilisation des professionnels de la santé. Il faut des mesures à l'état initial, de base, de l'autostigmatisation. Là, c'est vraiment une question très complexe et nous devons développer des indicateurs spécifiques qui peuvent nous aider à mesurer cette complexité, la complexité et les différents éléments de l'autostigmatisation. Développer ensuite et mettre en œuvre la réduction de la stigmatisation dans les communautés déjà stigmatisées. Donc, comme je l'ai montré, c'est un cercle vicieux. Je vous invite maintenant à... C'est de les trois composantes du cercle vicieux. Nous pensons que l'autostigmatisation représente un obstacle à la visibilité de la séropositivité. Le manque de visibilité du VIH dans la communauté est un obstacle à l'accès aux soins. Le manque d'accès aux soins renforce tous les éléments liés à l'autostigmatisation. Donc il faut vraiment détruire ce cercle vicieux pour améliorer l'environnement. Enfin, j'aimerais conclure avec une voix positive qui montre si l'on veut vraiment traiter ce problème de l'autostigmatisation, on peut créer des chefs de file, des leaders qui peuvent contribuer à la réduction du problème. Je suis comme d'autres personnes, être séropositive, ne m'arrête pas ou ne me limite pas, mais au contraire, cela me motive. C'est mon ami Juan. Je voulais vous montrer ça. Je veux rendre hommage à tous les gens qui m'ont aidé à mettre en place cet exposé. Cette visibilité contribue à améliorer l'environnement, la voix des gens qui sont séropositives, pour mieux comprendre la stigmatisation et la discrimination. Je veux rendre hommage à mes collègues, Amit et Morrison, qui m'ont aidé à préparer cet exposé. Merci. Merci pour cette excellente présentation. L'autostigmatisation il faut lier un petit peu les questions de stigmatisation, de discrimination et la déclaration des droits de la personne. Si l'on pense à l'article 1 qui dit tous les êtres humains sont nés libres, dignes et égaux. Et la dignité vient avant les droits. Et c'est un petit peu cette réduction de l'amour-propre qui est vraiment au cœur de la stigmatisation. Et c'est cet élément qui est... Tu as vraiment bien développé. Nous devons garder à l'esprit augmenter la visibilité des séropositifs. Je crois vraiment à cela. C'est vraiment... Il faut vraiment être positif. Et il y a des gens très productifs, mais ils ne sont pas suffisamment visibles, ils n'ont pas suffisamment d'espace, et leur voix est souvent basse. Je vais maintenant souhaiter Linda Gray, qui va donner une perspective, y compris PMPCT, elle est pédiatricienne de l'ARC, directrice de l'unité de recherche prénatale sur le VIH, et elle a reçu un certain nombre de prix, y compris le prix de Nelson Mandela pour les droits de la personne pour BMTCT. BMTCT, elle travaille aussi à elle a travaillé à Soweto dans les années 90 pour démontrer que les femmes dans les environnements pauvres pouvaient vraiment prendre en charge ce problème. Je vous donne le micro. Je veux remercier les gens pour m'inviter. Je vais présenter des données des travailleurs de société après l'année 2000. Il y a de l'écho. Il me semble que les questions que nous voyons un petit peu à Londres sont les mêmes qu'à Lagos. La discrimination est vraiment et existe dans tous les environnements. Je veux un petit peu vous dire, qu'est-ce que la stigmatisation? C'est un phénomène complexe, social complexe, ou un processus, et c'est aussi une étiquette de discrimination, et qui change radicalement la façon dont les gens se perçoivent, ou ont perçu par les autres. La stigmatisation peut être vécue à l'interne. La stigmatisation interne peut pousser une personne à ne plus rechercher d'avoir accès aux ressources. Et la stigmatisation externe peut amener à la discrimination basée sur... Je vais parler maintenant, poser quatre questions dans cette présentation. Est-ce qu'il y a des pratiques discriminatoires dans l'environnement des soins de santé? Qu'est-ce qui contribue à la discrimination dans les établissements de santé? Quel est l'impact sur les soins? Et est-ce que les travailleurs de la santé peuvent changer leur attitude? Une étude, je vais parler maintenant d'une étude qui a été faite en Inde, qui montre que 2/3 du personnel et près un Et un quart était dans le haut niveau de stigmatisation, que ce soit des infirmières et un petit peu une personne hier de Londres, que presque 50% des séropositifs qu'ils ont étudiés ont rapporté de la discrimination par les travailleurs de la santé, les dentistes et les médecins de famille particulièrement. Il est important d'essayer de comprendre comment les travailleurs de la santé discriminent dans les établissements de santé. Ils pensent que le VIH peut être transmis par les séropositifs, un petit peu. Le personnel aussi de santé sont très hauts aussi sur l'index de stigmatisation. On peut voir par exemple ils ne veulent pas toucher des séropositifs par exemple. Une étude récente qui a été publiée au Nigeria. Regarde les pratiques de discrimination un petit peu. On peut voir dans l'échantillon presque 10% ont refusé des soins à des séropositifs. Et il y a aussi 10% ont refusé une admission hospitalière. Donc des travailleurs de santé ont observé d'autres travailleurs de la santé qui refusaient des soins à des séropositifs. Ou par exemple une admission hospitalière. Donc ça montre la possibilité que les patients séropositifs ne vont pas utiliser les services parce qu'on leur refuse l'accès à ces services. Donc c'est une question qu'il faut traiter.
Maintenant, si on regarde une autre liste, on essaie de comprendre pourquoi les travailleurs de la santé sont la discrimination. On peut voir qu'il y a une relation directe entre la connaissance de la transmission de VIH, la déterrence et puis la perception aussi que l'acquisition de la séropositivité peut être faite par les travailleurs de la santé, par l'exposition, le risque évidemment de l'exposition professionnelle et qu'on va avoir des comportements de stigmatisation et que les gens qui sont séropositifs devraient avoir des réservations. Et la pire partie de cette étude-là a été que les médecins qui étaient aussi mauvais que les autres travailleurs de santé dans leur pratique de discrimination. Nous avons vu aussi à cause de cette discrimination que des gens utilisent les soins de la mauvaise façon. Nous avons vu des gens qui ne protègent pas. Nous avons vu nous allons voir des infirmières évidemment qui portent des gants doublés. Nous allons voir évidemment qui portent des masques dans la vie de tous les jours pour se protéger de la séropositivité. Maintenant, si on voit comment la perception des travailleurs de santé a des répercussions ailleurs. Une étude qui a été faite au Vietnam et une autre qui a été faite dans un autre pays, que la plupart des gens, des travailleurs de santé en Zambie, ont des images négatives des gens qui sont séropositifs, disent qu'ils sont des prostituées ou des gens comme ça. La plupart des gens ont l'impression que le VIH est quelque chose dont on va avoir honte. Près de 60% des travailleurs de santé ont choisi de ne pas être vérifiés parce qu'ils préfèrent ne pas savoir s'ils seront séropositifs ou séropositives ou non. Une femme qui a été infectée par la séropositivité a dit que le stigma était évidemment le pire obstacle pour aller chercher les services de santé. Par conséquent, il est, même en Zambie, il semblerait que les travailleurs de santé, les travailleuses de santé sont influencés par cette discrimination qui est perçue dans leur collectivité. Et cette perception, l'éducation peut représenter différentes barrières pour aider les gens. Si on étudie d'autres études des travailleurs de santé, nous pouvons voir la question du stigmate qui existe. Et si vous êtes infecté par le VIH, vous êtes percé, vous pouvez avoir des peurs. Vous êtes un travailleur du sexe, ou vous êtes une personne qui s'injecte, fait l'injection des drogues. Lorsqu'on examine les patients, il y a un manque d'éducation et à des répercussions. Alors, le stigmate du VIH peut être expérimenté de différentes façons. Alors, comment cela a-t-il des répercussions sur le traitement? Je crois que c'est une question qui est importante. Je crois que la séropositivité, les gens qui sont positifs ne veulent pas aller prendre des soins parce qu'ils ont peur d'être mal perçus. 36% des gens ont perçu une expérience de discrimination à travers la santé. Ceux qui avaient expérimenté ceci aussi ont manqué des rendez-vous. Il y a aussi évidemment le déni des soins. Une étude qui a été faite au Botswana, qui vient d'être publiée récemment, il semble que l'accès est une façon. Il y a un exemple ici dans une collectivité que si nous pouvons faire accepter le VIH dans la collectivité, qu'ils vont pouvoir accepter que les gens soient plus traités. Pourquoi est-ce qu'on ne traite pas l'hémophilia? Pourquoi ne nous avez-vous pas dit qu'on était hémophiliaque, en fait? C'est une travailleuse de santé qui disait, pourquoi est-ce que nous ne disons pas? Pourquoi ne nous dites-vous pas que vous êtes en hémophiliaque? Alors que c'était une personne qui était traitée en 1990, on vous aurait traité beaucoup mieux si vous nous aviez dit ce qui arrivait. Et c'est une des diapositives les plus importantes qui vous montre il est estimé que 36 000 personnes y font de l'injection de drogue. Beaucoup vivent au Brésil. En Europe de l'Est, en Asie centrale, 55% des gens qui ont des cas de VIH sont perçus comme étant des utilisateurs de drogue. Ça amène à un manque de traitement catastrophique. Et d'où est-ce que cette discrimination arrive, là? Alors, évidemment, une piètre moralité et le manque de ressources. Les études qu'on nous présente aujourd'hui, l'Afrique du Sud, une d'entre elles dit, si je voulais être un entrepreneur de pompe funèbre, j'aurais commencé par être infirmier ou infirmière. Alors, on estime les risques, nous ne sommes pas appuyés par de bonnes politiques et le manque d'accès médical, le manque d'accès au matériel augmente cette perception. Et de protéger les travailleurs de santé, ce semble être un facteur à la discrimination. Alors, la question importante qui est ici, est-ce que les travailleurs de santé peuvent être, est-ce qu'on peut enseigner à un vieux médecin de nouveaux trucs? Il y a des outils là qui sont là pour essayer de démoniser ces stigmates-là et qui peuvent être mis en place pour que les travailleurs de santé puissent enlever cette stigmatisation et la honte qu'ils peuvent avoir de traiter les gens qui sont séropositifs. Alors, on doit toujours avoir besoin d'avoir un consentement, de mettre des gants et tout le reste, et d'améliorer l'accès au prophylaxis. Alors, en conclusion, la stigmatisation peut avoir des répercussions sur les soins qu'on reçoit. Les gens qui vivent avec la séropositivité sont victimes de stigmatisation par les travailleurs de santé. C'est un gros empêchement pour l'utilisation des services. Les travailleurs de santé jouent un rôle, évidemment, dans cette discrimination-là. L'appui et la formation aident les gens pour améliorer l'environnement de la santé pour les gens qui vivent les séropositivités. J'ai une situation avec Nelson Mandela ici. C'est une question d'essence humaine élémentaire. Et l'histoire va nous juger sur ce que nous avons fait ou sur ce que nous n'avons pas fait. Merci. Merci beaucoup, Glenda. Je crois que vous avez soulevé une autre partie. C'est une autre partie de notre casse-tête pour les stratégies pour combattre la stigmatisation et la discrimination. Alors, nous l'avons vu, évidemment, pour les travailleurs de santé, médecins, infirmiers, infirmières et tout le reste. Alors, on doit inclure ça dans l'accès universel, l'implant d'accès universel. C'est une autre composante. Et je suis très heureux de dire que notre dernière présentation, Dr. Charles Katende, est en fait est un expert sur ce domaine-là. Et l'évaluation et la mesure de stigma qui existe. Il a un doctorat de l'Université de la Pennsylvanie, il a travaillé sur les questions de stigmatisation l'USAID, l'appui qu'ils ont pour la planification de VIH et de SIDA, les indicateurs des développements et les systèmes d'évaluation ou de mesure, et la surveillance et l'évaluation et des groupes de référence. Je n'ai pas essayé d'empêcher quoi que ce soit de nos présentateurs. Les présentations ont été tellement bonnes. Je ne vais pas essayer, évidemment, de diminuer les présentations, de raccourcir les présentations. Mais il nous restera, j'espère bien, au moins près d'une demi-heure après ça. Et nous devons penser à vos... Vous pouvez commencer à penser à vos questions, vos commentaires. Parce que c'est un panel d'experts ici. J'ai appris beaucoup ici. Maintenant, Charles, je ne vais pas vous demander d'être discipliné au point de vue du temps, parce que je ne vais pas vous discipliner moi-même. C'est mon plaisir d'être ici pour vous présenter ces expériences sur le dépistage, sur la mesure de stigmatisation. Nous avons eu environ... Nous avons parlé des stigmas, comment se produisaient dans différentes populations, chez les gens qui prodiguent les soins. Maintenant, un des défis qui reste, comment mesurons-nous les stigmates? La stigmate n'était pas mesurée dans le passé, parce que c'était une nouvelle chose que nous essayons d'identifier. Alors, nous devons le traiter avec des stratégies efficaces. On doit mesurer le stigma, comme vous savez, parce que les donateurs voudraient mesurer les progrès que nous avons faits avant qu'ils nous donnent le financement. Alors, c'est très important d'en arriver avec des mesures qui peuvent nous aider à mesurer la stigmatisation, la diminution de stigmatisation, et mesurer le progrès, la réduction du stigmatisation. Malheureusement, la stigmatisation est un phénomène complexe et manifesté dans différentes populations d'une façon différente. Et la façon que nous faisons dans différentes populations est difficile à mesurer, parce que la stigmatisation de quelqu'un ne peut pas être faite et mesurée. Et lorsque vous demandez aux gens de le rapporter, les gens vont avoir plusieurs rapports, dans lesquels plusieurs rapports. C'est un phénomène complexe, et nous devons trouver des façons de vraiment le comprendre. Pour ça, du progrès a été réalisé sur la façon de mesurer la stigmatisation qui existe. Dans ce progrès, ça inclut, par exemple, les paramètres de stigmatisation de développer. Ce sont les outils de base que nous avons besoin pour avoir un indicateur de mesure. Alors, je vais rapporter que les façons que nous pouvons utiliser pour mesurer le stigma. Et pour utiliser ces paramètres-là, les indicateurs sont là et sont testés. Et des tests que nous avons ces outils qui sont disponibles maintenant pour que les gens peuvent utiliser pour mesurer la stigmatisation dans leur propre programme. Alors, j'aimerais dire au tout début que nous avons besoin de plus de faire d'évaluation, plus de tests, parce que ces tests sont faits dans différents contextes, dans différents sites. Alors, la lutte continue. Maintenant, parlons des paramètres. Et c'est ma présentation. De ce qui a été fait, les tests qui ont été faits pour les indicateurs de stigma qui ont été faits jusqu'ici. Ce paramètre montre, en fait, les événements comme étant faits par une causalité. Les facteurs qui sont sous-jacents à la stigmatisation et les manifestations qui est la résultante et le résultat de cette stigmatisation. Les facteurs, ils ont certains des éléments qu'on quand on veut mettre en place des programmes de réduction de stigmatisation, il y a la peur qui nous empêche, qui sont basés sur la connaissance, la honte, le jugement. Et ensuite, on va aux réformes et les réformes légales. Alors, si je me auto-stigmate à moi-même, qu'est-ce qui se produise? Et aux autres, les évaluations, la divulgation et la diminution des services. Et le progrès que nous avons sur l'accès universel. Parce qu'il y a très de mesures. On veut vraiment mesurer les effets du stigma. Parce que c'est vraiment ce que nous, c'est le cœur du programme même. Parce qu'il est difficile de mesurer la stigmatisation. Parce que la stigmatisation n'est pas là pour vous. Vous avez besoin, c'est caché. Vous avez besoin d'aller chercher ailleurs. Mais aussi, rappelez-vous que les programmes doivent se focaliser sur les bons facteurs. Cela veut dire que pour mesurer, nous avons besoin d'indicateurs au niveau des facteurs humains, parce que des programmes qui doivent mesurer le progrès des programmes de réduction de stigmatisation avant qu'on puisse dire que vraiment nous avons une diminution des stigma. Au niveau des manifestations, ce que nous voulons mesurer, en utilisant la divulgation, le succès, mais ce n'est pas parce que si par exemple la divulgation, vous assumez que la stigmatisation doit avoir, doit être réduite et que par conséquent le programme a été réussi. Nous avons utilisé le programme, la première expérience, ça a été fait en Tanzanie, sur le territoire, et ma collègue Laura l'a mentionné aussi. Ça a été un effort pour en fait améliorer ce qui existait comme indicateur. On utilisait dans le passé des indicateurs qui étaient utilisés par qu'est-ce que c'est que les enseignants enseignent. Alors c'était ces choses que nous essayons de trouver qui ne sont pas peut-être assez bonnes. Et puis qu'on ne pouvait pas mesurer l'amélioration. Les gens aussi, il y avait feu de. Alors, il y a la vérification sur le territoire a été faite sur les différents indicateurs. La communauté, les fournisseurs de services de santé et les gens qui vivent avec le sida et les gens qui vivent avec la séropositivité. J'aimerais maintenant vous présenter certains des résultats qui ont été amenés. Je commence ici avec la première, la dimension de la peur. C'était d'avoir un indicateur sur le territoire qui dit que les gens qui ont peur du contact social, les gens ont beaucoup de peur du contact casuel comme ça, des gens qui sont séropositifs. Même un enfant qui joue avec un autre enfant, de partager des ustensiles, de s'occuper d'une personne, de parler à une personne qui est exposée, alors toutes ces peurs doivent être mesurées afin qu'on puisse savoir jusqu'à quel point c'est la peur qui amène à cette stigmatisation. Les résultats nous montrent que toutes ces peurs, elles sont à différents niveaux et 46,6% des gens qui ont répondu avaient peur d'une infection par un de ces 12 canaux-là. Que les utilisateurs, environ 5 de ces articles-là, qui en fait peuvent apporter ça. Les autres 7 articles sont des peurs vraiment. Alors cela montre qu'on a besoin de mesurer la peur elle-même parce que c'est une amélioration sur les indicateurs précédents que nous avions. On dit, est-ce que vous avez peur de X, Y, Z? Et ensuite, vous devez mesurer plusieurs de ces articles-là pour identifier 5 qui sont suffisants pour indiquer le niveau de peur. L'autre a été c'est blâmer le jugement basé sur les tests, sur les attitudes et les résultats, en fait, ont bien montré que le pire indicateur qui utilisait ce genre d'indicateur, vous avez besoin, en fait, de penser de focaliser sur ces choses. et l'autre se focalise sur des articles. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est sur les attitudes, c'est que lorsqu'on demande aux gens, est-ce qu'ils voulaient accepter que le VIH était une punition? 39% ont répondu que ça l'était. Est-ce que les gens acceptent une pareille, je crois que 62% l'ont fait. Alors, ça a été évidemment une chose que nous avons trouvée, une chose que nous avons identifiée qui est très importante. Les deux indicateurs-là a été le partage. Et chacun de ces indicateurs-là va à trois articles différents. Nous avons mesuré d'autres dimensions qui par lesquels on expérimentait le stigma. Ce sont des articles clés qui existent des différences entre les hommes et les femmes. Et les indicateurs ici, je recommanderais que ce soit un indicateur qui peut utiliser au moins un article d'une forme différente. Toutes ces choses-là cherchent différentes phases du stigma. Le manque de respect. Et les indicateurs, au moins un article dans les quatre que nous voulions identifier. Pour les conclusions, en conclusion, étant donné que mon temps tire à sa fin, peut-être pour mesurer, nous devrions mesurer. Je crois que c'est la meilleure chose que la population en général qui vive avec le VIH-SIDA. Tout le rapport de ce test-là est disponible sur le site de ICRW. Et cela m'amène à un autre indicateur. Et c'est l'index de PLHA, où nous nous basons sur les gens qui vivent avec qui sont séropositifs. Et c'est une approche qui souligne, utilise les gens qui vivent avec la séropositivité. Elle donne aussi l'opportunité pour les gens qui vivent avec la séropositivité de calculer eux-mêmes avec leur index. Et ça leur donne le pouvoir de voir combien de stigmatisation, de combien de stigmatisation ils sont les victimes. Et alors, l'année prochaine, nous aurons le UNAIDS, le IPPF et l'INP. Alors, ce sont les dimensions que nous pouvons utiliser pour mesurer la discrimination par la stigmatisation, être proactif pour confronter la stigmatisation et la discrimination. Alors, je voudrais conclure en disant que les progrès que nous avons faits jusqu'ici pour mesurer les indicateurs de stigmatisation, c'est qu'ils arrivent au travail. Et puis, il y a des indicateurs qui existent. Les indicateurs sont maintenant disponibles et nous avons les ressources pour les mentionner. Alors, les programmes peuvent être dans le VIH, les ressources et adopter certains de ces outils pour mesurer ces mesures de discrimination-là. Alors, il s'est recommandé pour les populations générales et il est recommandé pour une dimension spécifique. Chacune des dimensions, vous avez différents articles qui mesurent la stigmatisation. J'ai mentionné différentes approches des programmes pour concentrer sur des articles spécifiques. Par des programmes peuvent baser sur la peur. Alors, vous avez un indicateur pour mesurer la peur. Si vous avez sur les réactions, vous l'avez aussi, et tout le reste. Et aussi, il est important de la ségrégation par le sexe, comme on l'a vu, et qui amène différentes parties de discrimination. Et maintenant, il y a des outils qui sont disponibles. Alors, sentez-vous bien à l'aise de visiter notre site, et je crois que nous aurons l'opportunité de mes collègues ici, qui sont de SCDW, vous pouvez leur parler, mais dans ces CD-là, on a ces outils qui sont disponibles. Mais finalement, nous manque encore de tests, parce qu'il y a quelques tests que nous avons faits. Nous avons besoin de d'autres outils, d'autres tests. Il y a toujours l'espérance que nous avons les indicateurs en place. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles. J'ai bien peur. Nous devons finir à 12h15. Je vois que les gens sont déjà au microphone, alors je vous recommanderai tous les gens qui veulent contribuer à ça, d'aller à un des microphones. Et nous commençons avec le microphone 2. Il semble y avoir une foule qui est déjà là. Et je prends le plus de questions possibles, parce que votre point de vue, vos questions sont importantes. Alors, nous allons commencer. Microphone 2, 3. Est-ce qu'il y a un micro... Oui, il y a beaucoup de gens. Il y a toute une série de gens. Microphone 1. Je commence 2, 3 et 1. Alors, devant tout premier lieu, Nadine France, du réseau en Thaïlande. J'ai deux questions. La première est pour Mandy. Mandy, on a entendu aujourd'hui, on sait très bien que la pire forme de stigmatisation, c'est dans les services de santé. Il y a le rapport de la recherche de Barrett, que je suis sûr dont vous êtes tous familiers. Est-ce que je pourrais demander à Mandy de basé sur le modèle du bébé amical, et aussi si vous connaissez quelque chose sur les plans pour améliorer ce service de santé. Elle parle plus de questions vers la fin. Récemment, en Thaïlande, nous avons eu un accident très bien, un militant très bien connu, un bon ami à moi qui est décédé. Il est décédé dans les circonstances de sa mort ne sont pas claires. Il n'y a pas eu d'autopsie parce qu'elle était séropositive. C'est en Thaïlande, c'est un endroit qui est souvent cité comme étant l'endroit où le stigma de la discrimination est le plus forte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Nous avons été dévastés, la famille a été dévastée aussi. Microphone numéro 3. Un brave rêve et une organisation de foi. Je voudrais simplement amener l'attention de ce groupe sur le fait que tous les pays en voie de développement, la plupart des pays développés, 40 à 50% des travailleurs de services de santé est donné par des organisations basées sur la religion. Et ce sont vraiment les gens qui protègent la collectivité. Est-ce qu'on doit continuer? Et je continue à faire trembler ce géant. Malheureusement, dans plusieurs des cas, les juges sont ceux qui font la stigmatisation, qui font la promotion de la stigmatisation. Nous avons beaucoup de problèmes avec eux dans les collectivités. Très bon point, merci. Microphone numéro 1, Suzy McLean. Et j'aimerais soulever la question des circonstances. Lorsque nous avons parlé, veux-tu leur demander d'augmenter le son du microphone, s'il vous plaît? On parle d'homophobie, la misogynie, les attitudes de stigmatisation. Et les causes de stigma. Et j'accepte que la peur du virus, évidemment, Et aussi, en plus, j'aimerais la présentation de la dernière personne qui a demandé que nous décrivions les manifestations du stigma, que nous n'oublions pas la violence et même le meurtre. Et on se rappelait que les militants de séropositivité, la personne qui a été tuée au Mexique. Alors oui, merci. Microphone 2 encore une fois. Mon nom est Catherine Dodds et je fais de la recherche au Royaume-Uni. J'ai une question tout simplement pour Mary, en fait. Tout aussi bien que Laura et Charles. Quels sont les exemples pratiques que vous avez vus où le gouvernement a reconnu que ce n'est pas simplement que enlever les stigmas, c'est simplement par des programmes d'affiches? Par exemple, au Royaume-Uni, le département des services de santé publique, il y a une discrimination, il y a un plan d'action. Mais un plan d'action qui n'a pas d'action pour régler ce problème-là. Puis moi, ça m'embarrasse. Ça me gêne vraiment de dire que je demeure au Royaume-Uni lorsqu'on parle de cette discrimination-là. Alors, est-ce qu'il y a des exemples pratiques de la façon qu'on peut régler cette situation-là? Merci, excellente question. Est-ce que vous voulez commencer à répondre? Un couple de points. Je crois que les pays qui ont été actifs à des modèles de législation sont de bons exemples de pays qui se sont engagés à adresser ce stigma-là. Cependant, une fois cela dit, si les changements de loi et de politiques ne sont pas combinés au niveau de l'éducation, les gens qui font qui sont les législateurs, Il n'y aura pas de réponse. J'aimerais citer deux choses rapidement. Le travail en Zambie a beaucoup travaillé des travailleurs de santé qui sont terrifiés à avoir accès au traitement alors qu'elles font la dissémination du traitement. Elles-mêmes ne veulent pas le recevoir. Elles ont peur. Et la restigmatisation de la tuberculose, parce qu'elle devient, évidemment, on pense qu'elle devient qu'elle vient du sida. Nous sommes en train de restigmatiser la tuberculose. Et c'est quelque chose que nous devons vraiment étudier de très près. Je vois le défi ici. Je veux traiter le plus de choses possibles. Microphone 3. Sarah Ratson, de l'Université Duke, North Carolina, lorsqu'on mesure le stigma parmi les populations où les niveaux de connaissance peuvent être élevés sur les façons de transmission du sida, est-ce que vous avez demandé de donner le droit de donner la bonne réponse aux gens pour essayer de voir qui que ce soit qui fait cette étude? Alors, nous n'avons pas vraiment l'image de ce que nous devons mesurer. Je crois que vous parlez ici de les biais de désirabilité. Je crois que Charles a bien mis cette diapositive lorsqu'on posait la question aux personnes et quelle était la perception que ces gens-là seraient perçus dans la collectivité. Il y a une grande différence qu'on a vue dans la réaction là.
On n'a pas de façon de juger s'il y a des préjugés sociaux ou s'il y a une différence entre la stigmatisation réelle et la perception de stigmatisation. Je pourrais dire que la perception de la stigmatisation, c'est ce qui compte, parce que c'est ce qui empêche les gens d'aller rechercher des services. Ce que les gens pensent arrive, se vit dans la communauté. Par la MICA, je viens de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, nombreuses études montrent il y a peu de stigmatisation, mais en fait, les études montrent qu'il y en a peu, mais il y en a beaucoup de stigmatisation perçue. Les activistes traitent cette stigmatisation perçue, et ça, en fait, contribue à la perception de haute stigmatisation. Ça contribue au problème, en fait. Dibble Raleigh, je viens de Chicago, aux États-Unis. Ma question est pour le docteur Katinde. Je me demande si vous pouvez un petit peu développer un peu plus sur la façon dont les femmes vivent la stigmatisation de façon différentielle. Elles vivent la stigmatisation différemment, comment est-ce qu'on peut le mesurer et comment est-ce qu'on peut intervenir si c'est différent? Réponse rapide. J'ai des difficultés à cause de l'écho. Tu me demandes comment est-ce qu'on peut avoir des mesures universelles, des mesures différentielles, si la stigmatisation est vécue de façon différentielle. Ce que nous avons fait un petit peu lors du développement de l'index de stigmatisation, nous avons examiné spécifiquement s'il y avait des différences et des expériences entre hommes et femmes. C'est aussi une question d'âge. On n'a pas pu examiner cela à cause de la taille de notre échantillon, mais dans ces mesures, dans le rapport que nous avons présenté, nous avons commencé avec 17 mesures que nous avons examinées spécifiquement. Nous avons intégré les différences. On a eu des moyennes. La base, il faut complètement désagréger les données et je pense que des mesures de l'homophobie et par rapport à la toxicomanie, ça c'est un grand défi. C'est vraiment les différentes couches de stigmatisation. Nous faisons un travail au Vietnam où la toxicomanie est vraiment c'est une stigmatisation sous-jacente. Mais on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Merci. Mon nom est Jean-Thomas Bouboussier. Je viens travailler au Kenya. Vous avez mentionné tant de fois les groupes vulnérables Mais chez moi, les gens qui vivent avec les gens qui vivent... Je vais t'arrêter très honnêtement. Si tu ne l'avais pas fait, donc je voulais en parler. Tu as raison, oui. Tu as raison. Ron, de l'Université de Caroline du Sud, Clonda Gray, clairement, nous inquiétons des expériences des travailleurs de la santé qui stigmatisent les patients. Je me demande si il pourrait y avoir une discussion sur l'éducation de ces travailleurs, les facultés de médecine, les écoles d'infirmières comme véhicule des attitudes et de la discrimination qui... Il faut qu'ils repensent leur travail et leurs valeurs. Est-ce qu'il y a des exemples de travail comme cela? La formation des médecins et des infirmières autour de la VIH et le sida, c'est autour des questions médicales. Ils n'ont même pas touché la stigmatisation. Nous devons étudier le niveau de stigmatisation et commencer à travailler, comment régler ce problème. C'est notoire en Afrique, le manque de valeur morale, le manque de leadership politique, le manque de formation, le manque de ressources humaines, mais les écoles d'infirmières et les facultés de médecine n'ont pas identifié le VIH-SIDA comme un élément important de la formation. Et c'est le problème. Je pense que les facultés de médecine sont vraiment très très en retard dans les pays où l'homophobie existe si fortement et où des activistes pour le VIH ont été assassinés. Nous devons commencer beaucoup plus tôt dans les écoles avec une éducation spécifique, pas uniquement sur le VIH, sur le sexe. À mon avis, commencer la faculté de médecine, c'est déjà beaucoup trop tard. Robert Lisman vient de New York. Excellent exposé. J'ai un peu le sens de déjà vu. Nous avons déjà parlé de ça aux États-Unis dans les années 80 et 90. Il y a eu du travail de fait. Scott Byrne. Deux choses rapides. Aux États-Unis, les organisations professionnelles ont fait beaucoup de travail important et aimait. L'association médicale a vraiment intervenu auprès de médecins qui refusaient des services de santé aux patients atteints par le VIH. Il faut vraiment une mobilisation du secteur de la santé. Il faut aussi... Je pense que la stigmatisation est un terme à nous. Les patients ne pensent pas à la stigmatisation comme concept, mais ils vont vous passer d'expériences où on leur a refusé des services. Très bon. Nous n'avons pas un petit peu négocié. Nous avons encore 5 minutes. Si je peux, je répondrai rapidement. Micro 3. Madame Curie, again. Personne n'a mentionné les gens, les handicapés, simplement parce que nous pensons qu'ils ne sont pas admissibles pour la vie sexuelle. Ils n'ont pas de vie sexuelle et donc ils ne peuvent pas devenir un groupe vulnérable pour le VIH. L'OMS dit que les handicapés représentent 10% de la population, toutes les populations. Comment est-ce que ces gens peuvent avoir un accès universel aux soins? Est-ce que je peux faire une suggestion? Oui, bien sûr, tu as raison. Est-ce que je peux gérer à nos experts? Est-ce que vous parlez des groupes vulnérables? Vous parlez spécifiquement des gens handicapés? Tu as absolument raison, oui. Jobin Mato. Je travaille en Ouganda. Est-ce que nous pouvons inclure véritablement, comme groupe spécial, les gens qui sont discriminés, infectés ou offensés? Il faut parler de ces groupes spéciaux lorsque nous parlons de discrimination. C'est un bon point. Demain après-midi, je pense que si j'ai lu le programme, la dernière session, il y a en fait une session sur la stigmatisation et la discrimination des enfants demain. Donc c'est bien que la conférence ait organisé une session. Je voudrais simplement répondre à la question sur la liste de vérification. Il y a un outil qui a été développé en Inde. Comment améliorer la qualité des services de façon à déstigmatiser? Il y a de nombreux outils qui existent. Alors, nous voulons des preuves, de nouveaux outils, mais il faut en fait utiliser les outils existants. Nous en sommes qu'à trois. Il faut travailler avec ce qu'on a, Donc, une question pour chaque micro et c'est tout. Je viens d'Argentine, je travaille pour la campagne de surveillance du sida. Je suis très heureuse de voir que l'Amérique latine est représentée, mais l'Espagne, parce que nous avons été oubliés pendant... Et en fait, l'Organisation de santé panaméricaine a fait une étude sur la discrimination dans les établissements de santé. Mais qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on a fait avec les résultats? Merci. La question, la trousse à outils, est-ce que c'est disponible en ligne? Est-ce que c'est disponible en espagnol? La réponse est oui. La réponse est oui. Oui, nous avons lutté et à propos, on avait oublié l'Amérique latine. Nous avons eu des difficultés à trouver de l'argent pour publier la trousse à outils en espagnol. Micro 3, Liz Fort, je viens de BBC World. Je veux remercier toutes les conférenciers pour une excellente session et une session vraiment stimulante et émouvante. Je suis d'accord avec tous les points sur le besoin d'un portrait exact des gens qui vivent avec le VIH-SIDA, mais je m'inquiète spécifiquement sur les effets involontaires et peut-être la stigmatisation involontaire qui est communiquée indirectement par les campagnes de sensibilisation. Maintenant, je voudrais juste commenter sur le fait que je pense que ces documents vont être non seulement utiles pour l'antistigmatisation, mais c'est où il faut aussi considérer ces questions à toutes les étapes de l'éducation. Et peut-être, vous parlez dans le contexte des médias, une bonne partie de ce que nous disons, les médias doivent aussi faire leur travail. Micro numéro 1, les bishops de Task. Je veux remercier Mende pour mentionner la connexion entre la tuberculose et le VIH. Il est très important dire rapidement, je partage l'observation de Laura. Oui, la stigmatisation est universelle. Je travaille principalement dans l'Europe de l'Est. Il y a une absence totale de sensibilisation là-dessus. D'une certaine façon, cette région est vraiment une ou deux décennies en arrière par rapport aux autres régions du monde pour traiter ces questions. C'est une question sociale et politique. Puisque vous avez organisé une conférence pour les tests pilotes pour évaluer les outils, je vous fais une offre. Notre programme en Ukraine serait vraiment très heureux de collaborer avec vous. Une excellente offre. Un dernier commentaire des experts, des conférenciers. Nous devons vraiment finir là. Dernier commentaire et de revenu. Je reviens sur ma présentation pour les gens qui travaillent dans les pays où, et s'il doit y avoir un accès universel à la fin de 2006, soyez en contact avec le bureau UNAIDS. Ils vont aider. Ils doivent soutenir la mise en place de ces plans, et ces plans doivent inclure une campagne d'antidiscrimination et pour avoir du financement. C'est un bon point stratégique. Je dois remercier les conférenciers. J'ai appris beaucoup des présentations. Et aussi, je tiens à remercier l'auditoire. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Merci.
No, it's excellent. It's very good. Hi.